le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons Jean-Raymond Stoffacher, pasteur à Montpellier et président de l'UNEPREF, l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France. Nous sommes à Nazareth, dans le nord d'Israël, au tout début du ministère de Jésus. Le Christ participe à la célébration du Shabbat. Jésus prend la parole lors de la cérémonie. Les mots qu'il prononce provoquent une très vive réaction parmi la foule.
Avec les chrétiens rassemblés dans notre pays, comme dans la francophonie, avec les communautés priantes qui vivent la prière comme un engagement de chaque jour, avec Héry, Cécile et Paul, dont nous entendrons les prières rédigées, avec ceux qui sont engagés concrètement au service des autres, au nom de leur foi, tournons-nous ensemble vers Dieu, notre Père, vers le Christ, notre Seigneur, dans la communion de l'Esprit-Saint. Recevons pour nos vies et nos circonstances, pour nos attentes et nos espérances, la paix et l'assurance de son amour. Associons-nous à cette prière de louange et écrite par Héry. Seigneur notre Dieu, tu nous as placés dans un monde préparé avec soin. Jour après jour, tu as organisé notre environnement, comme des parents préparent et arrangent la chambre de l'enfant à naître. Et avec les yeux de cet enfant, lorsque nous parcourons ce monde que tu as créé, ses saisons, paysages et continents, lorsque nous rencontrons les personnes que tu as mises à nos côtés, parents, amis et compagnons, nous découvrons combien tu nous aimes. Nous voyons le bonheur que tu veux pour nous, et cela nous remplit de reconnaissance. Seigneur, merci pour ce monde que tu as créé si beau. Merci pour ton amour qui nous rend si joyeux. Amen. Combien il nous est difficile parfois de voir ce monde et les autres comme un cadeau de la part de Dieu. Entendons comment le Christ nous exhorte à vivre notre relation avec les autres dans son évangile, l'évangile de Jean au chapitre 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Entendons aussi cette exhortation de l'épître de Jean au chapitre 3. Mes enfants, n'aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Ces paroles nous invitent à nous présenter devant Dieu en vérité. Faisons nôtre cette prière de Cécile. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous croyons savoir ce qui est le mieux pour nous, savoir comment tu fonctionnes, comment tu dois agir pour nous contenter. Combien de fois nous oublions que la véritable sagesse, c'est de se confier en toi, même si ta façon d'agir nous déconcerte souvent. Pardonne-nous, Seigneur, de nous croire si fort au point de te dire ce que tu dois faire pour améliorer nos vies. Pardonne notre orgueil, nous qui pensons que notre sagesse est suffisante pour nous guider à travers le chaos de ce monde. Pardon pour nos replis sur nous-mêmes, et quand nous pensons que l'autre n'est pas digne de notre amour. Viens nous bousculer, nous remettre en question. Libère-nous de nos suffisances. que nous puissions accueillir avec joie ce que tu nous envoies d'inattendu, rempli de confiance en toi. Ouvre notre regard sur les autres, afin de faire écho à ton commandement dans le concret de nos vies. Dirige nos pas, Seigneur, selon ta volonté, et non la nôtre. Amen.
Je veux revenir auprès de toi.
Écoutons l'évangile du jour qui est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 21 à 30. Alors Jésus commença à leur dire : Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Et tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche, et il disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors il leur dit « Sûrement vous allez me citer ce dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Faisons donc autant ici dans ta patrie. » Et il ajouta « Oui, je vous le déclare. Aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur lequel était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Voici donc à Nazareth, dans ce village de Galilée où la famille de Jésus s'est installée après son exil en Égypte. C'est le soir du sabbat, dans la synagogue qu'il a fréquentée depuis son enfance. C'est là où, avec ses amis, il a été enseigné et a vécu ces temps si riches qui composent l'année liturgique juive. Tous savent que Jésus sort du lot par sa capacité précoce à comprendre les Écritures. Luc nous raconte d'ailleurs, un peu plus tôt, la réaction des docteurs de la loi qui s'étonnent de ses connaissances alors qu'il n'a que 12 ans. Tous savent qu'il se destine au rabbinat, et qu'il vient juste d'être baptisé dans le Jourdain par le prophète Jean-Baptiste. Il est devenu l'homme du moment. On est venu ce soir-là aussi pour entendre ce qu'il va dire. Mais Jésus est rarement là où on l'attend. Après avoir lu un texte d'Ésaïe, il les surprend en leur livrant une interprétation qui tient en une phrase. « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Le texte qu'il a lu est un extrait du chapitre 61 du livre du prophète d'Ésaïe, qui parle du Messie envoyé de Dieu pour sauver son peuple. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » On n'aborde pas ces textes sans précaution, tant ils sont importants dans la pensée juive. Ni non plus sans savoir qu'ils font appel à des représentations, des espérances qui sont très vivaces au sein du peuple. Au premier rang des espérances de cette époque, il y a l'immense attente de délivrance provoquée par l'occupation militaire des Romains. Cette attente jaillit des cœurs comme un geyser. Elle n'attend qu'un héros capable de l'incarner. Mais alors comment, dans ce contexte, comprendre ce que Jésus leur répond « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez ?» Dans cette réponse, il y a d'abord l'affirmation d'une bonne nouvelle. Cette ancienne prophétie d'Ésaïe est accomplie. Dieu a répondu. Il n'est pas indifférent à la souffrance des siens. À la suite d'Ésaïe, Jésus veut apporter une parole de consolation. Et tous ceux qui sont présents ce jour-là, nous dit Luc, en sont étonnés, c'est-à-dire qu'ils sont rencontrés. Le texte utilise même le mot « grâce ». Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche. Dieu nous fait, en Christ, la grâce de venir à nous et de répondre à nos soifs d'espérance. La deuxième partie du texte va prendre un tournant bien différent de la première. Jésus continue son discours en empruntant un tout autre registre. Il se met à les confronter. Il connaît bien ces gens et leur manière de penser. Il s'en prend d'abord à l'idée qu'il ne serait que le fils d'un charpentier nommé Joseph. Il y a ici, nous disent les commentateurs, l'affirmation heurtante et extraordinaire qu'il est le Messie venu de la part de Dieu. Et cela est inaudible pour ceux qui l'écoutent. Toute route vers le Christ se heurte à cette prétention. Un père de l'Église dit qu'elle est comme posée sur le cœur de chacun et qu'elle attend d'y tomber. Elle est folie pour les hommes, nous rappellera l'apôtre Paul, audible seulement du langage de la foi. Elle ne devient certitude que si elle n'éclot dans le cœur, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu lui-même. Ensuite, il les renvoie à cette quête insatiable qu'offre le miraculeux. Ils ont entendu qu'il avait accompli un miracle à Capharnaüm, et ils attendent de lui qu'il en produise un autre, séance tenante. Mais pour la guérison, on ne peut emprunter un autre chemin que celui de la foi. Il les pousse ensuite dans leur retranchement, en évoquant les prophètes. Il leur rappelle que l'histoire du peuple d'Israël s'illustre aussi par le fait que Dieu leur a envoyé des messagers, qu'ils ont rejetés et qu'ils n'ont pas su entendre. Il organise une relecture de l'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta, de telle manière à ce qu'ils comprennent que l'action de Dieu ne s'adresse pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens, à ceux qui ne confessent pas la foi juive et ne suivent pas les commandements. Il leur porte l'estocade en mentionnant un dernier personnage du Premier Testament, Naaman, qui est non seulement syrien, c'est-à-dire non-juif, mais aussi lépreux, ce qui pour eux est à coup sûr le signe de la malédiction de Dieu. Jésus place une femme et un lépreux au-dessus d'eux, et c'est inacceptable. Alors l'atmosphère se raidit soudain et tout est envahi par une colère noire, sourde, qui interdit tout dialogue. Il n'aura fallu que quelques phrases pour que la haine jaillisse. Il s'empare de Jésus et l'emmène hors de la synagogue pour le lyncher. Et avec une économie de mots, le texte nous laisse penser qu'au dernier moment, ils se raisonnent et ne peuvent se résoudre à le tuer. Il est l'un des leurs. Alors il passe au milieu d'eux et s'en va. Aucun autre récit des évangiles ne nous indique qu'il soit un jour retourné dans cette synagogue. Séance tenante, Jésus laisse derrière lui ceux avec qui il a grandi, empêtrés dans leur propre stérilité, et il s'ouvre au chemin nouveau de Dieu pour lui. C'est le début d'un exil de 3 ans qui prendra tragiquement fin lors de la Pâque, à Jérusalem. En bien des points, ce texte peut faire chemin en nous. Il nous renvoie d'abord à nous-mêmes. Il replace la question de nos aspirations, de nos revendications de justice, de nos rêves pour un monde meilleur, au cœur de notre foi. Il cherche à nous soulever, à nous faire sortir de notre déni ou de notre apathie. Il nous aide aussi à comprendre qu'il faut mettre en lumière le sous-jacent. Nos aspirations peuvent être porteuses de pulsions de mort et de destruction. Elles peuvent muter et laisser la place à des formes sophistiquées de ressentiment. Christ nous invite à refonder nos aspirations en lui. Ce texte nous tourne ensuite vers les autres. Il nous replace à leur service. Il nous indique qu'il nous faut apprendre à entendre les souffrances cachées, celles qui se dissimulent derrière les rapports de force ou les allégeances contraintes. Chaque fois que nous fermons nos cœurs aux cris de souffrance des autres, dans la complexité de leurs expressions, nous nous fermons à ce que Dieu attend de nous. Il nous faut inlassablement apprendre à discerner ce qui est porteur de la vie de Dieu et dénoncer ce qui l'enlise et la contraint. Il faut oser le dire dans l'intimité de nos lieux de culte, comme au cœur de notre société, jusque dans les enjeux les plus circonstanciés. Avec une patience et un amour infini, Christ est venu pour nous révéler à nous-mêmes. Suivre son chemin, c'est s'ouvrir à une libération, apprendre à vivre réellement libre, c'est entrer dans son royaume.
comme une terre aride, partout criblée de fissures. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Viens nous parler, te révéler à notre esprit. Nous visiter, transformer, façonner nos vies. Que ta parole éclaire le chemin meurtri. Comme une fleur qui s'ouvre pour accueillir le soleil. Mon âme reçoit de toi. Viens nous parler.
Au début de ce temps, nous avons entendu une louange écrite par Héry qui nous invitait à célébrer la beauté du monde. Faisons nôtre cette méditation écrite par Paul. Bien souvent, en regardant le monde, nous sommes tentés de penser qu'il est mauvais. Le monde est allé au diable, pensons-nous-mêmes. Et pourtant, le monde a été fait par Dieu. Et Dieu a vu qu'il était bon. Même dans les moments les plus sombres, le dessein de Dieu a toujours été de le sauver de l'autodestruction. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas condamné au naufrage. Le mal, la fragilité et la douleur ne sont ni sa raison d'être, ni sa nature profonde. La croix de Jésus n'est pas simplement le reflet de sa perversité, car de l'horreur de la mort, Dieu a œuvré pour faire sortir notre bien. Ne condamne pas le monde dans lequel tu vis. Ne l'abandonne pas à son destin. Bien plutôt, laisse la mort du Christ travailler à travers toi, pour le bien des autres. Dieu, ce monde est le monde que tu aimes. Ce monde est le monde que tu conduis au salut. Apprends-moi à l'aimer comme tu le fais, à travailler comme tu le fais, de sorte que ton royaume puisse venir sur la terre et que ta volonté soit faite sur la terre, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Jésus confronte les siens. C'était le thème de la méditation du pasteur Jean-Raymond Stauffacher, président des Églises réformées évangéliques de France. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Olivier Dupré. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation? Je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au 47 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Restez sur France Culture, à venir, Culture protestante, le rendez-vous mensuel des amitiés huguenotes internationales. Aujourd'hui, Laure Ginesti Vermeer nous parle du pasteur Ruben Sayens, compositeur du cantique La Sévenole, devenu l'hymne des protestants. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.